Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été. On est ensemble jusqu'à 19h. Mikhaïl Nikolaïev est un petit producteur installé dans le sud de la Russie. Sa spécialité, le vin, des rouges, des blancs, des rosés, mais aussi du fromage. Il produit du camembert et bientôt, espère-t-il, du roquefort. Alors, dans un reportage de France 2, diffusé le 8 octobre 2015, Mikhaïl le confesse, il est un amoureux des produits français, mais si sa production a décollé, c'est surtout grâce à l'embargo décrété par Vladimir Poutine en 2014 sur les produits alimentaires occidentaux. Une mesure prise à l'époque en représailles aux sanctions américaines et européennes à l'encontre de la Russie, sanctions qui réagissaient elles-mêmes à l'annexion de la Crimée et le soutien des Russes aux séparatistes de l'Est de l'Ukraine. 3 ans plus tard, le moins que l'on puisse dire, c'est que le conflit est loin d'être résolu. Non seulement la Crimée risque peu d'être restituée à l'Ukraine, mais les relations russo-américaines ne cessent de s'envenimer. Dernier épisode en date, le vote, jeudi dernier, par le Sénat américain d'un nouveau train de sanctions commerciales. Moscou réplique dès le lendemain avec l'annonce du renvoi de 455 diplomates américains. Et tandis que chacun campe sur ses positions, Mikhaïl, lui, continue d'écouler ses camemberts, camemberts avec un K, sur le marché russe. Alors à quoi servent les sanctions contre la Russie ? Eh bien, c'est le sujet dont nous débattrons ce soir. Et 3 invités pour en discuter. Jean-Sylvestre Mongrenier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé en géopolitique à l'Institut Thomas More. Vous êtes auteur notamment avec François Stomme de Géopolitique de la Russie, qu'on trouve dans la collection Que sais-je des puffs et qui est paru en mai 2016. À vos côtés, Florent Parmentier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris et co-auteur du blog Eurasia Prospective. Et puis vous êtes l'auteur de Les chemins de l'état de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie. C'était paru en 2014 aux presses de Sciences Po. Et notre 3e invité est au téléphone depuis Moscou. Il s'agit de Muriel Pomponne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes correspondante de RFI en Russie. Merci à tous les trois. Alors pour commencer, peut-être avant de rentrer dans le cœur du sujet, donc de cette passe d'armes entre la Russie et les États-Unis, une réflexion peut-être sur la sanction comme outil de relations internationales. Florent Parmentier, est-ce que la sanction pour vous, c'est quelque part le prolongement de la diplomatie, c'est-à-dire peut-être exercer un rapport de domination par un autre moyen que par les armes, ou est-ce qu'au contraire la sanction c'est déjà l'échec de la diplomatie ?
Alors je pense que ce qui est en jeu aujourd'hui dans la relation États-Unis-Russie, c'est de marquer un rapport de force et en même temps de négocier. Et c'est là qu'arrivent les sanctions. C'est-à-dire, quand sont apparues les sanctions ? On a commencé à parler de sanctions à la fin du 19e siècle. Auparavant, il y avait des boycotts, il y avait des embargos, des blocus, le blocus continental par exemple, français contre l'Angleterre du temps de Napoléon. L'idée de sanctions et de sanctions économiques précisément est un moyen alternatif que le recours aux armes pour régler des conflits ou en tout cas des différences et des divergences. Il est apparu véritablement avec la SDN, la Société des Nations, donc après la Première Guerre mondiale. Ça n'a pas toujours été efficace. On se souvient par exemple que l'agression de l'URSS contre la Finlande en 1939 aurait dû mener à l'exclusion de l'URSS, mais n'avait pas mené à des sanctions malgré ce que disait la charte de la Société des Nations qui aurait, dans ce cas précis, prévu d'avoir ce genre de choses. Donc c'est un outil qui existe et qui est un outil de diplomatie, en tout cas de rapport de force mais feutré. Pour autant, les questions qui sont adjacentes, et on voit bien dans le cas de la Finlande, en l'occurrence de 1939, c'est que les sanctions ne fonctionnent pas toujours. En tout cas, leurs conditions de fonctionnement sont très particulières.
Votre regard à vous, Jean-Sylvestre Mongrenier, sur la sanction comme outil de diplomatie ?
Il n'y a pas de contradiction entre diplomatie et rapport de force. D'abord, il faut avoir ça à l'esprit. Aujourd'hui, on parle beaucoup de dialogue, mais bon, à mon sens, c'est un concept qui est complètement inadapté pour traiter de tout ce qui est rapport de force, rapport de puissance. Et la diplomatie s'inscrit dans cette logique. Alors, la mise en œuvre de sanctions, d'embargo, de boycott, quelles que soient les appellations, ça relève finalement d'une diplomatie coercitive. La diplomatie, c'est l'art de la persuasion, mais généralement, plus on est fort, plus on est persuasif, et la mise en œuvre de ce type de mesures, ça permet, entre autres, de faire l'économie du recours à la force armée. C'est aussi un palliatif.
Et j'imagine aussi qu'une sanction, alors on va évidemment discuter de l'efficacité des sanctions, une sanction, c'est c'est un outil, ça veut dire qu'on attend un résultat de cette sanction et qu'on envoie, j'imagine aussi, surtout un message à travers une sanction, c'est-à-dire on espère que l'autre va changer d'attitude, peut-être s'excuser, signer un accord. Est-ce que la sanction peut être aussi une manière de punir tout simplement l'adversaire, de l'humilier publiquement devant la scène internationale ?
D'abord, ce n'est pas uniquement un exercice de sémiologie. Là encore, on est véritablement dans le rapport de force, de puissance, donc ce n'est pas simplement une question de signification. Il s'agit de parvenir par ce moyen et d'autres à modifier le comportement de l'État qui est visé. Et puis au-delà, parce que l'épreuve de force, ça peut se jouer dans la durée, il ne faut surtout pas être court-termiste et puis attendre un retour sur investissement au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an. Il peut aussi s'agir de s'attaquer aux bases de la puissance de l'adversaire.
Alors si on s'intéresse effectivement au cas russe, Muriel Pomponne, est-ce que à travers les sanctions, les nombreuses sanctions qui ont été prises depuis 2014 par les Occidentaux contre la Russie, est-ce que vous avez l'impression depuis Moscou que ces sanctions ont été reçues avec un message, un sens ? Est-ce qu'elles ont du sens pour la population russe et évidemment pour le gouvernement russe ?
Pour la population russe, elles sont surtout la preuve que le monde entier est contre la Russie. Il y a ici ce qu'on appelle le sentiment de la forteresse assiégée. Et donc les sanctions vont dans ce sens. En plus, c'est une interprétation qui est développée par le gouvernement. Donc personne n'aime la Russie. Et la preuve, on nous impose des sanctions, on nous punit comme si on était un méchant petit garçon, et uniquement parce qu'on nous aime pas. Il n'y a eu aucune remise en cause des raisons pour lesquelles il y a ces sanctions. Il n'y a aucun débat sur est-ce que ces sanctions sont dues à une politique étrangère qu'il faudrait modifier, par exemple. Ce débat n'existe pas.
Donc, par exemple, quand du côté américain ou européen, on dit, on punit la Russie parce qu'elle a annexé la Crimée ou parce qu'elle aide les séparatistes dans l'est de l'Ukraine, ces éléments-là n'apparaissent pas dans le débat public en Russie ?
Non, absolument pas. Les autorités, bien sûr, savent de quoi ils retournent, mais pour la population, c'est juste parce qu'on les aime pas, c'est juste parce qu'on n'aime pas la Russie, parce que le monde entier est contre la Russie. Et cette rhétorique est développée par le gouvernement sous le thème de la russophobie, qui est un mot qu'on emploie beaucoup ici. Et donc, il n'y a aucun débat sur les raisons des sanctions. Simplement, on nous aime pas, alors on nous impose des sanctions.
Est-ce qu'il faut en déduire, Florent Parmentier, que c'est déjà un semi-échec des sanctions si, ne serait-ce que dans le débat public russe, on n'a pas entendu pourquoi, quel était le sens de ces sanctions ?
Il y a une ambiguïté fondamentale des sanctions, qui est la suivante. On a la métaphore parfois, pour expliquer l'effet des sanctions, du combat entre le frigo et la télévision. Le frigo, c'est tout simplement l'effet économique des sanctions. C'est-à-dire comment les sanctions frappent la population ou les élites, sachant qu'il y a différents types de sanctions. Il y a des sanctions qui sont extrêmement précises, par exemple l'interdiction de visa de telle ou telle personne impliquée dans l'invasion de tel ou tel territoire ukrainien. Ça, c'est quelque chose de ciblé, mais il y a cette dimension-là qui est celle du frigo, c'est-à-dire des effets économiques. Et puis, il y a l'effet télévision. Et l'effet télévision, c'est de montrer que, vous voyez, si on est sanctionné, c'est certes peut-être parce que le monde nous aime pas, mais on nous aime pas parce qu'on est puissant. Donc c'est cette idée que la sanction peut aussi être vue comme une espèce de brevet de courage qui serait décerné aux autorités contre un monde extérieur foncièrement hostile. Et dans ces cas-là, on voit bien qu'il y a une ambiguïté dans l'efficacité des sanctions, c'est-à-dire que ça peut tout à fait servir entre guillemets la cause du régime plus que de la desservir. C'est là-dessus, voilà, je pense qu'il y a un point intéressant à développer.
Jean-Sylvestre Montgrenier, pour continuer à filer cette métaphore du frigo et de la télévision, dans le cas russe, vous avez l'impression que lequel prédomine jusqu'à présent, c'est-à-dire, si on schématise un petit peu, effectivement, on va toucher l'économie russe sur ses faiblesses, la population va le sentir dans son frigo, mais sur le côté opinion, on renflatte et on renforce peut-être aussi une cohésion nationale, de se sentir soudé contre les ennemis extérieurs. Lequel des deux prévaut aujourd'hui, à votre avis ?
Mais de toute façon, c'est pas une opération de diplomatie publique. Hein. Il s'agit pas de faire une espèce de démonstration pédagogique et puis de retourner l'opinion publique russe contre le régime. Je pense qu'on est bel et bien dans une situation de conflit. On est dans un conflit géopolitique et il s'agit véritablement de s'attaquer aux racines de la puissance de la Russie.
Donc l'opinion publique n'est pas la cible.
Mon avis, non, c'est pas la cible première. Hein. Alors en revanche, hein, peut-être que c'est certain. Ce que l'on doit prendre en compte, c'est plutôt les cercles de pouvoir qui gravitent autour de Vladimir Poutine, autour du Kremlin, avec l'idée que parmi ces gens qui font des affaires, qui sont aussi animés par l'esprit de profit, qui se voient attaqués au portefeuille, qui peuvent plus jouir d'autant de facilité dans les pays occidentaux, peut-être que ça pourrait modifier les rapports de force à l'intérieur du système de pouvoir russe, et puis avoir des conséquences sur les choix politiques. Mais là, c'est vraiment, si vous voulez, top down, c'est vraiment au sommet. Mais c'est certainement pas une opération d'opinion publique. Alors maintenant, oui, effectivement, l'opinion publique russe, elle est dans cet écosystème où il y a quand même pas de véritable liberté de la presse, de véritable libre débat. Il y a des flots de propagande. La propagande, on s'aperçoit que ça fonctionne. C'est pas parce que ça fonctionne à l'intérieur de la Russie qu'on va baisser les bras devant la Russie puis dire puisque finalement vous avez l'opinion publique avec vous, continuez à agresser vos voisins et on ne fera rien. C'est pas comme ça que la question se pose, à mon sens.
Muriel Pompol, du côté plutôt du gouvernement et de Vladimir Poutine, est-ce qu'on peut avoir une idée si, de son côté, les sanctions sont perçues comme une humiliation, comme un affront, ou bien comme un peu une reconnaissance de sa capacité de nuisance, en fait, hein, sur la scène internationale ?
Alors, pour le pouvoir, il est sûr que... On a l'impression qu'on n'en sort pas, en quelque sorte. Là, avec les dernières sanctions américaines, il y a une impression, enfin, en tout cas, ce qu'affirme le pouvoir, hein, parce que je ne sais pas...
Vous n'êtes pas dans la tête de Vladimir Poutine.
Il affirme, voilà, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine. Ce qu'il affirme, c'est que on n'en sort pas. En fait, là, il y a une grosse déception en ce moment de la politique de Trump, puisqu'on s'attendait à ce que Trump fasse des concessions en ce qui concerne les sanctions, et ce n'est absolument pas le cas. Les dernières sanctions, aujourd'hui même, un certain nombre de résidences qui appartenaient à l'ambassade américaine ont été saisies par la Russie. Donc, ça n'avance pas. Les Russes disent d'ailleurs qu'il y aura peut-être encore des sanctions. Et il y a vraiment maintenant le sentiment qu'on est entré dans un engrenage de sanctions, de contre-sanctions, et qu'on ne va pas en sortir. On recommence à prononcer chez certains géopolitologues le terme de guerre froide, ce qu'on ne prononçait plus chez les gens un peu sérieux ces derniers temps. Donc il y a un sentiment qu'on n'en sort pas. D'un point de vue économique, évidemment, les sanctions ont des conséquences pour ce qui concerne notamment les investissements dans le secteur pétrolier, ce qui est important. Mais ça n'a pas des conséquences au point de vraiment provoquer un vrai marasme. S'il y a eu une crise économique en Russie ces dernières années, c'était à cause de la chute du cours du brut et à cause de raisons structurelles qui se faisaient déjà sentir avant les sanctions, qui étaient déjà là profondément et qui sont toujours là parce que l'économie russe, structurellement, a besoin de réformes qu'elle n'a pas, puisque pour l'instant, c'est une économie de rente basée uniquement sur les hydrocarbures. Donc, comment est-ce que sont perçues ces sanctions par le pouvoir ? Pour revenir à votre question, je pense que, pour l'instant, elles sont évidemment pas bien perçues, mais en même temps, c'est pas faux ce qui a été dit tout à l'heure, ça justifie la politique de force de la Russie. C'est-à-dire que, de toute façon, comme on nous aime pas, eh ben, nous, on continue dans cette politique de force et surtout dans cette politique multipolaire. Ça, c'est un terme qui est énormément utilisé. Et si les Américains s'en prennent à nous, c'est parce qu'ils refusent le monde multipolaire, c'est parce qu'ils veulent être les seuls à dominer le monde. Et donc, ça veut dire que notre politique est la bonne.
Alors, vous avez parlé d'impasse, hein, en rappelant ces sanctions qui s'accumulent depuis 2014. Florent Parmentier, est-ce que vous partagez cette impression que finalement, oui, les sanctions, elles peuvent avoir une capacité de nuisance réelle, mais pour autant qu'elles ne vont pas être porteuses d'un véritable changement dans le rapport de force d'une part et dans l'attitude de la Russie dans l'Europe de l'Est et sur la politique intérieure américaine, ce qui est quand quand même le but affiché de ces sanctions.
Alors, je pense que ce qu'il faut voir, c'est que pour les Européens comme pour les Américains, il était très difficile de ne rien faire en 2014 concernant la politique russe en Ukraine. Donc, il fallait trouver un moyen, probablement, de sortir de cette situation. Quelles auraient été les alternatives? Peut-être que les sanctions étaient, après tout, à court terme, le meilleur moyen pour que l'ensemble des Européens s'entendent sur une ligne. Il faut observer que les Européens sont d'accord depuis 2014 sur l'idée qu'il faut imposer des sanctions pour sanctionner un comportement qui est vu comme profondément révisionniste, au sens où il remet en cause les frontières en Europe. Ça, je pense que c'est le point de départ. Quelles auraient pu être les alternatives? Est-ce que livrer des armes à l'Ukraine aurait été plus efficace? Il est permis d'en douter, puisque ça aurait permis certainement une prolongation du conflit. Il y aurait eu davantage de morts. Est-ce que pour autant, ça aurait suffi à renverser une situation sur le terrain? C'est pas évident. C'est pas évident. Et donc, de ce point de vue-là, on peut penser que les sanctions, à condition d'être efficaces, pouvaient être peut-être la meilleure réponse en 2014. Ce qui est inquiétant, c'est plutôt l'incapacité que nous allons avoir à savoir, enfin, l'incapacité à sortir de cette logique-là. Et précisément, ça fait écho à ce qui était dit à l'instant, c'est-à-dire cette idée de nouvelle guerre froide telle qu'elle s'exprime. Avec ceci quand même de différent par rapport à l'origine, d'abord, il n'y a plus de parité de puissance. On voit bien que la Russie n'est pas un rival au même niveau que les États-Unis, on en est même très loin. Plutôt une puissance qui s'est, ces 25 dernières années, rétractée globalement plutôt que dans une nouvelle dynamique. Donc il n'y a plus la parité qui était au cœur de la guerre froide. Ceux qui pensent en termes de guerre froide font effectivement référence aux années 1980-1990. Les années 2010-2020 sont vraisemblablement marquées beaucoup plus, quand les historiens le regarderont, par l'essor de la Chine que par la résurgence de la Russie. Donc il y a là voilà un élément. Et le deuxième élément, effectivement, qui tend un peu à relativiser la partie guerre froide, c'est que la Russie, en tant que telle, n'a pas de système politique à proposer comme elle l'avait au moment de la guerre froide. Et donc c'est là certainement où ça peut être aussi une source de tension, d'incertitude. Mais en tout cas, ce ne sont pas les mêmes règles du jeu que celles l'étaient pendant la guerre froide.
Jean-Sylvestre Montgrenier, sur cette idée d'impasse, d'engrenage dont il va être difficile de sortir, est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez ou bien au contraire, c'est un risque à prendre parce que de toute façon, la sanction reste la meilleure des attitudes?
À mon sens, on n'est pas dans une impasse. Il y a une politique russe qui est celle que l'on connaît, qui a justement été qualifiée de révisionniste. C'est du révisionnisme géopolitique. Il s'agit de modifier par la force armée les frontières en Europe. C'est extrêmement dangereux. C'est ouvrir la boîte de Pandore. Il faut bien avoir à l'esprit que plus du quart, 27% je crois, des frontières des pays membres du Conseil de l'Europe, de l'Europe pour faire simple, ont été tracées après 1989-91, cette césure-là. Et donc si on commence à accepter qu'un État va remettre en cause par la force armée les frontières, eh bien ça, on peut très bien déboucher à nouveau sur des conflits du type 19e siècle. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement grave dont on a enfin pris la mesure, parce qu'il y avait quand même bien des signes, bien des choses qui avaient été faites par la Russie dans les années qui précèdent l'Ukraine, qui montraient qu'il y avait une volonté forte, une ambition de puissance du côté de la Russie, et que c'était pas simplement sur le terrain diplomatique et symbolique. Et donc, à ce à quoi on assiste depuis 2014, c'est à une prise de conscience du côté des pays occidentaux. Alors, en dépit du court-termisme, en dépit des intérêts économiques, eh bien, il se trouve que l'ensemble des pays de l'Union européenne, plus les États-Unis, le Canada, l'Australie, dans une certaine mesure le Japon, etc., se sont mis d'accord sur ces sanctions. Donc ça montre bien qu'il y a une prise de conscience du danger. Et tant que le problème persiste, ce problème géopolitique de première importance, un dispositif géopolitique de contention, c'est une sorte de nouveau containment, se justifie. On n'est pas dans une impasse. Il y a un problème, on apporte des réponses. C'est une épreuve de force qui peut se prolonger, et donc on n'a pas à attendre à une solution à 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Sinon, à l'époque de la guerre froide au sens historique du terme, au bout de 4 ou 5 ans après la mise en place du COCOM, le COCOM c'était un organisme qui était chargé d'éviter tout ce qui était transfert de technologie à l'URSS, aux pays de l'Est, on aurait dit bon, finalement tout ça sert à rien, à quoi bon, laissons tomber le COCOM, laissons tomber l'OTAN, reconnaissons l'annexion par l'URSS à des Pays-Bas, soyons soyons réalistes. Hein. Bon, hein, vous savez, encore 5 ans, 4-5 ans, et même moins, hein, 1 an, 2 ans avant la chute du mur de Berlin, vous aviez beaucoup de gens qui étaient persuadés que ce système, eh bien, il devait durer au moins pour 25-30 ans.
Alors qu'une stratégie de contention, comme vous dites, se met en place du côté européen, on l'entend, mais pour autant, est-ce que l'outil, encore une fois, de la sanction, et puis on peut le rappeler, ces sanctions, elles sont aussi de nature assez disparate. On a quelques mesures contre les oligarques, des mesures contre les banques, des mesures aussi symboliques sur les... Est-ce que ça vous semble, vous, un outil assez complet, assez coercitif, assez cohérent pour alimenter cette stratégie de contention de la Russie?
Pas suffisamment cohérent, ça s'inscrit dans un dispositif plus large. Hein. Il faudrait voir également ce que l'on fait à l'intérieur de l'OTAN, tout ce qui est renforcement de la posture de défense et de dissuasion dans le cadre de l'OTAN, à ce qu'on appelle la présence avancée de l'OTAN. Il y a l'expulsion de la Russie du G8, qui est redevenu un G7, et puis on a ces sanctions qui n'ont pas pour objectif de créer une situation de A à Z. Elles ont été pensées en fonction du contexte, en fonction des vulnérabilités de l'économie russe, et elles jouent sur ces vulnérabilités. Donc, la vulnérabilité de l'économie russe, qu'est-ce que c'est? C'est finalement ce qu'on appelle le Dutch disease. C'est une économie qui est excessivement fondée sur tout ce qui est exportation de pétrole, de gaz. Et donc, on a des sanctions qui sont extrêmement ciblées, qui ciblent l'industrie énergétique, qui ciblent le secteur de défense, pour éviter justement le transfert de différentes technologies, y compris ce qu'on appelle des technologies dual, c'est-à-dire avec un versant civil, un versant militaire, pour essayer de contrarier le programme russe de renforcement de son dispositif militaire. Et puis, on a également des sanctions d'ordre financier. Il y a bien une cohérence d'ensemble, et ça a produit des effets. Ça a produit des effets qui ont été mesurés économiquement, qui viennent s'additionner à ceux qui sont provoqués par la baisse des cours du pétrole, avec toutes les incidences que ça a également sur le gaz. Et puis, donc ça a des effets dans la durée sur le régime de puissance de la Russie, parce que pour produire autant de pétrole et de gaz, pour faire simple, la Russie, elle est obligée d'appuyer à fond sur l'accélérateur. Elle a des difficultés à renouveler ses réserves, et donc ça suppose de très gros investissements pour tout ce qui est prospection en eau profonde dans la zone de l'Arctique, également pour tout ce qui est valorisation de pétrole, gaz de schiste. Et le fait est que ces sanctions ont leurs conséquences.
Muriel Pomponne, votre regard depuis Moscou sur l'impact des sanctions sur l'économie russe.
Oui, alors je pense qu'il y a un impact réel. Hein. Il y a eu quand même une chute du PIB importante ces deux dernières années. Là, le PIB est en train de reprendre un peu. On envisage 1,2-1,4% cette année. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas uniquement dû aux sanctions, c'est dû aussi à une crise structurelle de l'économie russe. Mais le secteur des hydrocarbures a été vraiment touché par les sanctions. Ça a été souligné à juste raison, et c'est lui qui porte toute l'économie russe, hein. Plus de 50% du budget russe est financé par le secteur des hydrocarbures. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'à partir du moment où l'économie russe a eu des difficultés à se financer, hein, puisqu'il y a eu surtout des sanctions d'ordre financier, donc le financement de l'économie, le financement des investissements est difficile. L'argent est devenu plus cher, et une chose aussi qui a coûté très cher à la Russie, c'est l'annexion de la Crimée. L'annexion de la Crimée, au départ, a été fait tout feu, tout flamme, tout le monde était très enthousiaste, et finalement, les Russes s'aperçoivent que ça leur coûte très cher. Or, parce qu'il faut tout faire en Crimée, parce qu'il n'y a pas de continuité territoriale avec la Russie, parce qu'ils sont en train de construire un pont démentiel. Or, comme il y a des difficultés pour trouver de l'argent à cause de ces sanctions, il y a véritablement un coût économique qui est payé par la Russie à cause de ces sanctions. Et la plupart des experts sont unanimes pour dire que s'il n'y avait pas eu ces sanctions, Moscou serait sans doute allé beaucoup plus loin en Ukraine et ne serait peut-être pas arrêté à la limite du Donbass. Alors après, est-ce que pour autant la Russie va reculer, ou est-ce qu'elle va rester encore très très longtemps dans le Donbass? C'est une autre question. Mais je n'ai jamais dit que les sanctions n'étaient pas efficaces. Simplement, il y a aussi ce qu'en pense l'opinion publique. Et ça, c'est une chose différente. L'opinion publique, elle est alimentée par la propagande. Comme disait tout à l'heure quelqu'un, c'est la télévision. Et le pouvoir utilise les sanctions pour resserrer le peuple autour de lui via la propagande, via la télévision. Et voilà, ça c'est ce que moi je vois au quotidien en vivant en Russie.
France Culture, Du grain à moudre d'été, Mélanie Chalandon.
À quoi servent les sanctions contre la Russie? C'est la discussion que nous avons ce soir jusqu'à 19h avec Jean-Sylvestre Mongrenier, Muriel Pomponne et Florent Parmentier. Florent Parmentier, vous êtes d'accord avec cette idée qui était développée par Muriel Pomponne que sans les sanctions, la Russie serait allée beaucoup plus loin dans le conflit ukrainien, dans son soutien aux séparatistes?
Alors, vraisemblablement. Vraisemblablement, pour différentes raisons. Après, je crois qu'il faut aussi partir du principe que quand, il y a 3 ans, Vladimir Poutine explique qu'il a besoin que de 2 jours pour aller à Kiev, c'est vrai, fondamentalement, d'un pur point de vue de conquête militaire, ça ne poserait pas de difficultés majeures. C'est le point inquiétant. Je crois, voilà, de ce point de vue-là, que oui, les sanctions et surtout le message d'unité a été peut-être plus important que les sanctions. Le fait d'avoir l'Europe des 28, qui est encore pour 2 ans, le fait qu'il y ait un message assez commun était en soi quelque chose qui n'était pas forcément attendu de la part de Moscou, qui pensait beaucoup plus facilement jouer les uns contre les autres, ou en tout cas s'appuyer sur des pays avec lesquels elle a de meilleures relations que d'autres. Et je pense que c'est ce message d'unité qui a été important. Après, effectivement, on aurait pu imaginer, et d'ailleurs c'est intéressant de voir que les sanctions sont venues ralentir quelque chose. Après, je pense qu'on ne peut pas réduire non plus à ce seul phénomène-là. Et je crois aussi que ce qui a été décisif, c'est que tout simplement, une bonne partie des russophones ukrainiens se sentent avant tout ukrainiens de culture russophone, mais n'avaient pas pour autant envie de faire partie de la Russie. Et je crois que c'est là le principal facteur, en réalité, qui permet d'expliquer la raison pour laquelle la Russie de Vladimir Poutine s'est arrêtée à une partie du territoire ukrainien. Et puis aussi avec cette idée qu'à partir du moment où on avait quelque chose qui permettait de montrer à l'opinion publique qu'on ne se laisse pas dégonfler, qui est l'annexion de la Crimée, et d'autre part qu'on était capable d'occuper une partie du territoire ukrainien, il y a là un deuxième message qui était: de toute façon, vous ne pourrez pas intégrer l'OTAN en étant divisé territorialement. Donc il y a une partie aussi des objectifs, en réalité, des dirigeants russes, qui étaient d'éviter que l'Ukraine ne bascule totalement dans la sphère d'influence américaine, qui, du point de vue des élites russes, qui a été l'un des facteurs explicatifs aussi de cette situation.
En mars 2015, le Conseil européen avait décidé de lier la durée des sanctions à la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk, donc pour résoudre le conflit ukrainien. Est-ce qu'à votre avis, c'est le fait de lier les deux est une manière peut-être d'accélérer, de mettre de la pression sur le processus, ou au contraire, est-ce que définitivement on enterre toute possibilité de résoudre le conflit ukrainien parce que les Russes ne céderont pas sur ces sanctions?
Il faut se poser la question suivante. Qu'est-ce que Vladimir Poutine et les élites russes auraient à gagner à la résolution du conflit ukrainien? Et si on n'est pas capable de proposer quelque chose qui soit équivalent ou d'intérêt, à ce moment-là, on ne peut pas espérer résoudre le conflit.
Donc il vaut mieux négocier que faire pression.
Il faut faire pression et négocier. L'erreur vient précisément que la plupart des personnes oublient que cette politique est duale. Faire pression sans négocier revient à antagoniser deux puissances nucléaires. Négocier sans faire pression revient à se mettre dans une position de faiblesse unilatérale. Donc il faut faire les deux en même temps. C'est tout l'art de la diplomatie.
Jean-Sylvestre Mongrenier, vous vouliez réagir?
Oui, on fait les deux. Il y a une négociation incessante, mais négocier, ça signifie pas entériner le fait accompli sur le terrain, puis dire bon, bah finalement, c'est pas si grave, on va admettre l'annexion pure et simple de la Crimée, et puis la guerre hybride que vous menez au Donbass. Hein. Donc c'est toute la difficulté. Enfin,
parce qu'on disait en début d'émission, vous le disiez, la sanction est un moyen feutré du rapport de force, et parfois un moyen d'éviter le recours aux armes. Or, dans le cas du rapport avec la Russie, les sanctions arrivent après un rapport armé et un début de guerre en Ukraine.
Oui, c'est normal chronologiquement, ouais, puisque c'est ce conflit, cette guerre, cette annexion de la Crimée qui est à l'origine des sanctions. Les sanctions sont une réponse. Hein. Maintenant, comme ça a été dit précédemment, il faut imaginer ce qui aurait pu se produire si ce front diplomatique commun, non seulement européen mais occidental, n'avait pas été mis en place et des sanctions n'avaient pas été adoptées. Quand on regarde ce qui se passait le mois d'août 2014 sur le terrain, le conflit armé était au plus haut et il y avait véritablement la menace, la possibilité de voir la Russie aller beaucoup plus loin. Mais comme l'a dit mon collègue, Vladimir Poutine et les dirigeants russes ont été étonnés par le fait qu'il y ait un front diplomatique commun, parce qu'il était persuadé qu'il pourrait jouer les uns contre les autres, et puis il misait beaucoup sur l'Allemagne, je ne sais pas exactement pourquoi. Enfin bon, il y a des liens commerciaux étroits, mais si vous voulez, les Russes, en tout cas les dirigeants russes, ils ont une vision très très marxiste finalement de nos démocraties libérales. Les démocraties libérales, ce sont des ploutocraties, ce leur règne pur et simple de l'argent. Et dès le départ, dès 1917-1918, ils sont persuadés qu'il y a toujours possibilité de s'entendre avec des capitalistes dans les différents pays capitalistes pour jouer les intérêts économiques contre la gouvernance politique. Et donc, ils étaient persuadés que ça serait une sorte de chicken run, une explosion de l'Union européenne, une explosion de l'OTAN. Là-dessus, il y a eu ce front diplomatique commun, il y a ces sanctions effectives qui ont été mises en place, ils ne s'y attendaient pas. Il y a l'armée ukrainienne sur le terrain qui se battait. Il faut quand même que l'Ukraine rencontre nombre de difficultés, c'est une chose, mais il faut quand même rendre hommage aussi à ces combattants sur le terrain qui n'ont pas purement et simplement laissé passer les Russes. Une fois qu'ils ont laissé filer la Crimée, parce que tout le monde leur a expliqué qu'en quelque sorte, à résister, c'était provoqué, il fallait surtout rien faire, etc. Après, on venait même leur reprocher. Premier temps, on leur dit, il y a surtout, ne résistez pas, ça serait une provocation. Puis après, finalement, pourquoi vous êtes battus, vous n'êtes pas battus pour la Crimée? Toujours est-il que dans le Donbass, ils se sont battus, ça jouait aussi un rôle important. Ce qui a joué également un rôle, semble-t-il, là, c'est la menace proférée par les États-Unis de livrer des armes à l'armée ukrainienne. C'est quelque chose qui a été envisagé à ce moment-là. Et donc, on sait que Obama a balancé entre les deux options. Donc ça, c'est certainement quelque chose qui a été également pris en compte pour le pouvoir russe. Et donc, au bout du compte, ça a contribué à figer la situation sur le terrain. Maintenant, au-delà de l'Ukraine, il y a des problèmes géopolitiques globaux qui se posent en Europe. Il faut bien voir que tout ce dispositif de containment, de néo-containment qui s'est mis en place depuis 2014, c'est pas uniquement pour les beaux yeux des Ukrainiens, c'est parce qu'on craint tout simplement le retour à des grandes guerres en Europe, des grandes guerres motivées par des questions territoriales, des questions identitaires, d'où toutes les mesures de réassurance sur l'axe Baltique-Mer Noire. Ce que l'on craint par exemple, c'est ce que l'on craignait, on craint un petit peu moins maintenant, mais ce qu'on craignait, c'est que Poutine finalement, dans une sorte d'ivresse de puissance, se dise que l'OTAN, c'est un tigre en papier, et puis il pourrait se hasarder à réitérer le même type d'opération au détriment des pays baltes, par exemple. Et donc là, autant sur l'Ukraine, on avait une marge de manœuvre, parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, l'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne, et donc elle ne bénéficie pas automatiquement des clauses de défense et de sécurité qui lient nos différents pays. Autant sur les pays baltes, si jamais il y avait un scénario de guerre hybride qui commençait à se dérouler, là, on serait au pied du mur, ou bien on riposte, et puis on enclenche une guerre, ou alors on laisse faire, et puis dans ce cas-là, c'est l'Union européenne, c'est l'OTAN qui vole purement et simplement en éclat. Et donc c'est la remise en cause de tout le système de sécurité qui a été mis en place progressivement en Europe après 1945.
Muriel Pomponne, du point de vue européen, et on l'a entendu à l'instant avec Jean-Sylvestre Montgrenier, Vladimir Poutine et la politique qu'il mène au niveau international est perçue ici en Occident comme une politique animée par un esprit de revanche et aussi un esprit d'expansion territoriale. Comment est-ce que cela est perçu à l'inverse côté russe? Comment est-ce que les Russes perçoivent la tonalité que donne Vladimir Poutine à sa politique étrangère?
Alors il y a deux choses. D'abord, il y a la volonté de défendre le monde russe, ce qu'on appelle ici le monde russe, que le pouvoir en tout cas appelle le monde russe. Et ça, Vladimir Poutine a fait savoir partout où ce serait nécessaire, il défendrait le monde russe. Ce qui a fait peur d'ailleurs à certains de ses voisins. Je pense par exemple au Kazakhstan où 30% de la population est russe, où il avait quand même réussi un jour à féliciter le président kazakh en lui disant « je vous félicite d'être président d'un pays qui n'existe pas ». Et donc ça, le monde russe,
russe, les gens, la population, l'opinion publique le suivraient relativement sur la défense du monde russe. Mais enfin, c'est encore très relatif, hein, parce que la population, elle pense surtout, alors là, quand on parlait de la lutte entre le frigo et la télévision, elle pense surtout au frigo, et bon, elle n'a pas vraiment envie de se battre, ni pour les Ukrainiens, ni pour les Kazakhs. Mais enfin, c'est quand même une rhétorique qui est assez populaire, mais enfin, de là, accepter, éventuellement, prendre les armes, c'est autre chose. Et puis, par ailleurs, il y a, donc, les Américains apparemment cette volonté de politique de containment de la Russie, et la Russie a aussi quelque part une politique qui se veut une politique de containment face à la volonté de l'OTAN ou à la volonté supposée de l'OTAN de grignoter dans tous les pays qui constituent le pourtour de la Russie. Et pour Poutine, il y a une zone d'influence russe dans laquelle l'OTAN ne doit pas mettre les pieds. Et ça, c'est vraiment une constante de la politique étrangère russe, et la Russie a vraiment l'impression que elle s'est fait avoir depuis l'époque donc de la démantèlement de l'URSS, où un accord avait été signé, vous m'excuserez, je ne me souviens plus de la date, prévoyant que l'OTAN n'allait pas se développer vers l'est. Or ça s'est pas exactement passé comme ça, et donc là il y a vraiment c'est vraiment une ligne rouge pour les Russes, mais une ligne rouge pour laquelle ils sont capables d'être terriblement agressifs, c'est ce qui s'est passé en Ukraine. En Géorgie, il faut oublier la Géorgie qui a quand même perdu un tiers de son territoire du fait de conquêtes russes pour créer des États soi-disant indépendants, mais qui ne sont reconnus que par la Russie. Donc ces deux aspects, la défense du monde russe et la volonté d'empêcher l'OTAN de se développer, ce sont vraiment deux aspects très importants de la politique étrangère russe.
Dans les sanctions qui ont été adoptées la semaine dernière par le Sénat américain, les motivations explicites, alors évidemment donc ce dont on vient de parler, l'annexion de la Crimée, le soutien aux séparatistes ukrainiens, il y avait aussi les représailles contre une ingérence présumée des Russes dans l'élection présidentielle, et les Russes ont bénéficié peut-être d'un soutien inattendu, celui de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui a dénoncé des mesures sans concertation avec les Européens et qui pourraient être assez nuisibles aux intérêts énergétiques, notamment d'un grand projet de gazoduc qui doit relier la Russie à l'Allemagne pour importer le gaz russe. Florent Parmentier, je disais un soutien inattendu, mais effectivement l'Europe se retrouve dans une position très délicate, et ça c'est nouveau, parce que jusqu'à présent les sanctions étaient très concertées quand même entre les Européens et les Américains.
Donc il y avait une répartition des rôles depuis 2014 qui était que les Américains décidaient et les Européens payaient. C'est ce qui se passe dans le monde agricole français, où quand on vous parle des représailles que les Russes ont pris par rapport à l'accès au marché, c'est d'ailleurs le premier reportage en fait de l'émission qui était concernée, on a malgré tout l'idée que les Européens, les Français en particulier, ont payé aussi. Donc c'est vrai que quand on critique une certaine mollesse européenne, on a tendance à oublier qu'en attendant, il y a aussi des gens qui concrètement font le travail, entre guillemets, ou en tout cas payent cette situation. Donc il ne faut pas oublier ça par rapport à l'implication européenne en Ukraine. L'autre point, effectivement, concernant le point de vue européen là-dessus, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait que une plus grande présence américaine en Ukraine, en tout cas dans les formats de négociation, ne garantirait pas forcément une paix plus facilement acquise. Pour l'instant, on ne l'a pas vu. En revanche, ça reviendrait à marginaliser la position française et allemande, puisque France et Allemagne travaillent dans le cadre du format Normandie, qui est un format assez jeune, mais qui néanmoins doit aussi, faut laisser sa chance au format en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est un format de négociation dans lequel les Européens sont présents, et le fait est, voilà, que les sanctions telles que nous venons de les voir posent un certain nombre de difficultés aux Européens, posent un certain nombre de difficultés par rapport à la position française. On a un président qui à la fois était capable de rencontrer Vladimir Poutine, discuter avec lui à Versailles, sans oublier de rencontrer Donald Trump le 14 juillet. Donc il y a une position vécue de la part du président français comme devant enlever davantage de l'équilibre. Et c'est à ça que l'on peut lier à la fois sa critique du néoconservatisme importé des États-Unis, cette volonté de vouloir imposer son système partout, qui peut être tout à fait noble, mais dont les effets politiques peuvent être tout à fait désastreux. Et de la même manière, la critique de la part du président français des sanctions qui sont perçues un peu comme illégales de la part des États-Unis, avec cette idée que finalement ces sanctions, là encore, seraient l'occasion pour les Européens, pour les Français entre autres, mais aussi pour les Allemands et les Autrichiens qui là-dessus sont très remontés par rapport à la manière dont ont été décidées les sanctions.
Est-ce qu'il est à craindre, Jean-Sylvestre Montgrenier, pour les Européens qu'à terme, peut-être, les Américains finissent par se désintéresser de la question de la situation de l'Europe de l'Est en particulier par rapport à la Russie, et là, dans ces sanctions qui sont prises sans concertation avec l'Europe, y voir peut-être les prémices d'un schisme un peu entre alliés, entre Européens et Européens par rapport à la Russie.
D'abord, faut pas confondre les intérêts des firmes énergétiques qui sont engagées dans le projet de Nord Stream 2 et les intérêts de l'Europe comme un tout.
Ils sont quand même partiellement liés, des entreprises comme Engie, l'État s'en préoccupe.
Non, à l'intérieur même de l'Union Européenne, vous avez des pays qui sont contre le Nord Stream 2. Donc c'est ce gazoduc qui vient, il existe un Nord Stream 1 qui relie donc la Russie à l'Allemagne sous la Baltique, et puis ça permettrait donc d'accroître les importations de gaz russe vers l'Europe. Or, il se trouve que l'Europe est excessivement dépendante vis-à-vis du gaz russe. Ça fait des années et des années qu'on explique que la sécurité énergétique de l'Europe, des approvisionnements énergétiques européens, passe par une plus grande diversification de ces approvisionnements. Et c'est vrai qu'il y a quand même une contradiction avec un certain nombre d'autres projets. Et donc, vous avez la Pologne, vous avez les Pays-Baltes, un certain nombre d'autres pays à l'intérieur de l'Union européenne qui n'appuient pas du tout ce projet de Nord Stream 2. Donc, il faut faire attention à ne pas penser que les prises de position française et allemande, eh bien finalement c'est automatiquement les prises de position de l'Europe.
Vous dire si ce projet a été mis à mal par ce dernier train de sanctions, finalement ce serait pas une si mauvaise chose parce que ça réduirait la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe.
Oui, il y a le fond et il y a la forme. Qu'il faille une négociation, là je suis tout à fait d'accord. Bon, maintenant ce qu'il faut bien voir, c'est que pour l'instant c'est un vote à l'intérieur du Congrès et donc Donald
Trump
doit
encore être validé par Donald Trump.
Il va le valider, ça c'est une chose, et dans le texte, la version du texte qui a été adressé à Donald Trump, il est bien précisé que ces mesures doivent être prises en concertation avec les alliés. Donc là, c'est avant tout dans la mécanique interne du système politique américain. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de négociation ensuite pour bien accorder les violons. Bon, donc toujours est-il que dans la forme, c'est vrai qu'on a un front diplomatique commun occidental sur lequel j'insiste depuis tout à l'heure, et il est important de le préserver. Ça, c'est une chose. Après, sur le fond, c'est vrai qu'on a plutôt intérêt à diversifier ces approvisionnements énergétiques. Donc il y a la Turquie comme pont énergétique qui présente un certain nombre de vulnérabilités. Donc là encore, il ne s'agit pas de faire une espèce de bascule globale. On prétendrait substituer le bassin de la Caspienne, le transit à part la Turquie à la Russie. Il n'est pas du tout question de ça. Mais en revanche, à plus d'équilibre, il y a un certain nombre de gisements qui ont été découverts ces dernières années, et des gazoducs donc en Méditerranée orientale qui sont planifiés. Et donc il est tout à fait légitime s'interroger sur le bien fondé du point de vue du bien commun. Qu'il y ait des gens qui aient intérêt dans cette affaire, qu'il y ait des firmes qui aient des intérêts dans cette affaire, ça je le comprends bien, mais les intérêts privés ou les intérêts sectoriels, ça ne fait pas forcément le bien commun de l'Union européenne comme un tout. Et c'est vrai que ce Nord Stream 2, il pose quand même un certain nombre de questions. D'autant plus qu'il y avait une procédure qui avait été engagée par la Commission européenne contre Gazprom pour abus de position dominante. Or, ce type de réalisation financée à 50% par Gazprom, ça vient renforcer cette dépendance vis-à-vis du gaz russe.
Alors désolé, on n'a plus le temps. Je voulais encore vous demander, Muriel Pomponne, quel scénario de désescalade, même si on en est loin apparemment, quel scénario de désescalade on pourrait imaginer sans que personne ne perde la face, puisqu'on l'a bien compris, c'est aussi ça qui se joue. Voilà, ce sera à suivre dans une prochaine émission. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à la discussion. Jean-Sylvestre Montgrenier, Florent Parmentier et Muriel Pomponne au téléphone depuis Moscou. Les références de vos ouvrages, les liens, les infos, mais aussi la réécoute de cette émission et de toutes les autres, c'est comme toujours sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. Moudre, une émission préparée par Philippine Lebray, Pierre Testard, Juliette Montilly, Isolte Sicard et Cédric Fuentes. Réalisation Romain Masson, prise de son Érise Le, droit d'auteur Tom Delettri.